Et nous recevons ce midi Sandrine Rousseau. Madame Rousseau, un an après son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne donne une interview aujourd'hui à nos consoeurs et confrères du JDD. Elle vante un bilan solide et affirme, je la cite, vouloir continuer à faire du travail une priorité avec le projet de loi plein emploi et la création de France Travail. Est-ce que c'est la bonne priorité ?
En tous les cas, je pense qu'elle veut continuer. Oui, ça, je pense que ça fait de doute pour personne qu'elle veut continuer à être Première ministre.
Elle le dit d'ailleurs.
Bah oui, ça se voit beaucoup même dans sa stratégie. Mais c'est un bilan solide. Quand on a eu des manifestations historiques, une intersyndicale qui lâche pas 3,5 millions de personnes dans la rue, qu'on a un projet de réforme des retraites qui est toujours aussi contesté dans la rue, qu'on a une défiance du politique autant, non, c'est un bilan qui est catastrophique. Et en l'occurrence, la question du travail, elle aurait dû se faire avant la question des retraites, c'est-à-dire que faire une loi travail maintenant pour essayer de réparer quelque chose qui est quand même de l'exploitation. Enfin, je veux dire, quand on fait 60, quand on impose à tout le monde, y compris quand on a mal partout, quand on a des troubles musculo-squelettiques, d'aller jusqu'à 64 ans, c'est une forme d'exploitation.
D'exploitation ?
Oui. Oui, quand on a des métiers précaires, quand on est dans des situations de pénibilité, quand on est exposé aux produits chimiques, quand on a des troubles musculo-squelettiques, comme dans la plupart des métiers du soin, par exemple, mais pas que, dans la grande distribution.
Les mots sont forts, exploitation, ça ramène à des précédents dans l'histoire.
Oui, quand on a un corps qui est usé, abîmé, justement, malade du travail, et qu'on impose d'aller à 64 ans, alors on est...
Tout le monde ne va pas jusqu'à 64 ans, Madame Rousseau.
Quand on a des carrières longues, on ne va pas jusqu'à 64 ans. Mais quand on a des métiers pénibles et qui ne sont pas reconnus comme pénibles, alors on va jusqu'à 64 ans. Et je rappelle quand même que les critères de pénibilité, c'était une des batailles à l'Assemblée nationale. Et que l'exposition aux produits chimiques n'a pas été reconnue comme critère de pénibilité. L'exposition à des vibrations, les personnes qui sont sur des marteaux-piqueurs ne sont pas reconnues comme exerçant des métiers pénibles. Mais on est où ? On est où ? Les postures pénibles, toutes les personnes qui sont auprès de personnes âgées, qui doivent porter, qui doivent avoir des postures difficiles pour laver, par exemple, les personnes. Mais ça vaut aussi, par exemple, des personnes qui sont coiffeurs ou coiffeuses, qui ont aussi des postures pénibles. Tout cela n'est pas reconnu comme pénibilité. Ces gens devront aller jusqu'à 64 ans. Oui.
Vous avez dit, elle veut continuer, on a bien compris. C'est-à-dire que vous pensez, comme d'autres, qu'elle devrait partir ?
Ah, mais je pense que ça fait partie des solutions de sortie de crise, un remaniement ministériel. Et je pense que Emmanuel.
Vous demandez son départ ?
Non, je ne demande pas son départ. Je demande juste à ce qu'on entende la contestation sociale importante qu'il y a dans la rue.
Et en même temps, Madame Rousseau, s'il y avait un remaniement, vous seriez la première à dire ça ne change rien, c'est que des personnes, ce qu'on attend, c'est un changement d'orientation politique. Est-ce que vraiment d'avoir Bruno Le Maire, Gérald Darmanin à Matignon, ça changerait fondamentalement les choses pour vous ?
C'est vrai aussi que c'est un changement d'orientation politique que nous attendons, bien sûr, mais pour l'instant, il y a zéro geste d'aucune manière. Voilà.
Quand la Première ministre affirme dans le JDD
que... J'entends, pardon, qu'Elisabeth Borne est de gauche et que c'est comme ça, c'est pour ça qu'elle reste. J'aimerais voir la partie de gauche d'Elisabeth Borne, parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas observé.
Ah ben non. Dans cette interview au JDD, elle affirme que certaines oppositions ont laissé croire qu'il n'y avait pas de problème de financement sur la question des retraites. Clairement, elle vous vise en disant cela.
Oui, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ne pas voir les solutions que nous avons proposées dans l'hémicycle, ne pas en étudier une seule. On en avait proposé plus de 1000. Enfin, voilà, il n'y en a pas une seule qui a été étudiée. Et en attendant, on a eu une loi de programmation militaire sur plus de 400 milliards de dollars. D'euros, pardon. 400 milliards d'euros. Je veux dire, donc il y avait de l'argent. Quand on en veut, on en trouve. Donc voilà, moi je dis juste, on avait plein de solutions, et notamment sur la taxation des surprofits, sur la taxation des plus riches, mais aussi une augmentation des cotisations patronales, par exemple, ce qui ne s'est pas fait.
Et donc c'est bien qu'il y avait un problème de financement, parce que beaucoup d'opposition disait, au fond, le système il est équilibré, il n'y a pas besoin de trouver d'argent.
Non, mais il y avait un pic à 12 milliards d'euros qu'il fallait trouver pendant 3 ans ou 3-4 ans. Bon, ben voilà, ça. On pouvait trouver une solution sur une durée temporaire, mais le Conseil d'orientation des retraites, je le rappelle, disait quand même qu'il finissait par être équilibré et que le système des retraites était lui-même résilient au pic démographique que nous connaissons. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il y avait un problème insurmontable de financement. Et surtout, je rappelle qu'il est toujours aussi injuste d'imposer à tout le monde un âge de 64 ans, et que ça, tout le monde le sait, y compris Elisabeth Borne.
Madame Rousseau, la Première ministre regrette de ne pas avoir plus négocié avec les partenaires sociaux. Vous êtes d'accord ou... Elle veut le faire maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'invite à sourire, et je reprendrai les mots de la secrétaire générale de la CGT qui disait lol, voilà, ils ont demandé à être reçus, l'intersyndicale a demandé à être reçue par Emmanuel Macron et par Elisabeth Borne. Il n'y a jamais eu d'invitation pendant tout le débat sur les retraites.
Elle dit qu'elle a continué à parler avec eux quand même.
Non, elle a échangé peut-être éventuellement par téléphone avec l'un ou l'autre, mais elle n'a pas organisé de réunion officielle avec les syndicats et avec l'intersyndicale.
Vous trouvez que lol, c'est sérieux? Vous dites vous-même qu'on est dans une période quand même critique, qu'il y a encore des choses à négocier, des choses à obtenir. Vous parlez de pénibilité, il y a des décrets qui sont en préparation. Est-ce que lol, c'est vraiment une formule adéquate?
Est-ce qu'il est sérieux quand on est dans un conflit historique, que l'intersyndicale n'a jamais été aussi unie, qu'il n'y a jamais eu autant de personnes aussi longtemps dans les rues depuis bien des années? Est-ce qu'il est sérieux de ne pas recevoir les forces syndicales? C'est ça la question. On est dans une situation où le gouvernement nie l'histoire et le rôle que jouent les syndicats comme étant des forces avec lesquelles nous devons discuter dans un dialogue social, dans une négociation sociale. Je rappelle quand même que les syndicats ne sont pas autoproclamés, qu'ils sont reconnus par l'État, qu'ils ont des élus, qu'ils sont élus à l'intérieur des entreprises et des administrations, et qu'ils ont une légitimité dans notre démocratie. Ce sont des acteurs de notre démocratie, et en l'occurrence des acteurs qui protègent les salariés. Pourquoi à aucun moment il n'a été jugé utile de les recevoir, de les entendre? Nous les avons entendus à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'en l'espace, je crois que nous les avons reçus une heure simplement. Et bien déjà, rien qu'en l'espace d'une heure, ils avaient bien des choses à dire et bien des choses
donc
intéressantes à dire.
Vous félicitez que la CGT accepte de retourner aux négociations, en tout cas d'aller voir Elisabeth Borne à Matignon. Ce sera le 16 ou le 17, on n'a pas encore la date précise.
La CGT sera le 17,
oui. Oui, je pense que c'est bien que la CGT accepte d'aller voir Elisabeth Borne, notamment parce que ça maintient l'intersyndicale. Maintenant, on va voir aussi quelle est la sincérité de la démarche d'Elisabeth Borne. A-t-elle envie de parler des retraites ou pas? Et en fait, on va voir ce sur quoi porte l'agenda politique. Et moi, je fais le pari qu'en fait, ça n'est qu'une invitation de façade. Mais peut-être je me trompe. Et dans ces cas-là, tant mieux.
Alors, l'actualité est également marquée par des violences qui se multiplient contre les élus. La Première ministre, ce matin, annonce la création du Centre d'analyse et de lutte des atteintes suite à ces différentes affaires. Est-ce que vous soutenez la création de ce centre?
Non, mais je propose qu'on fasse un numéro vert aussi pour les élus. Non, mais c'est ridicule. C'est
pourquoi
ridicule. Mais parce que les élus, on connaît les menaces. Moi, j'en reçois, par exemple, de nombreuses. J'ai déjà obtenu 3 condamnations par la justice de personnes qui me menaçaient soit de mort, soit de viol. 3. Donc, je veux dire, on les connaît, les menaces. On n'a pas besoin d'avoir un centre d'études et un centre de lutte.
Il y a besoin de alors?
On a besoin d'avoir une mobilisation de l'État qui protège ses élus, c'est tout.
Vous considérez que c'est pas besoin, le cas?
Mais pas
ça,
du
ça
tout.
Ça n'a pas été le cas, en
mais
l'espèce.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, par exemple, je n'ai bénéficié d'aucune protection, jamais. Peut-être n'en avais-je pas besoin, mais je n'ai même pas... Enfin, je veux dire, il y a quand même eu 3 condamnations pour menaces de mort et de viol.
Vous l'avez demandé, la protection?
J'ai envoyé un dossier au cabinet de Gérald Darmanin qui m'a répondu par une lettre liminaire en disant qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. Bon, j'ai même pas eu un entretien avec une personne des services de renseignement me disant quelle était la nature de la menace ou pas. Donc je n'en sais rien, en fait. Et quand on voit le maire de Saint-Brévin, il a été seul face aux menaces qu'il subissait.
Alors, soutenait l'installation sur sa commune d'un centre pour les migrants.
Oui.
Et évidemment, les regards se portent vers une opposition à ce projet. Et il a été, enfin, son véhicule et sa maison, de fait, ont été incendiés. C'était au mois de mars que ça s'est produit. Et d'ailleurs,
oui.
Elisabeth Borne dit ce matin, elle reconnaît avoir tardé à réagir.
Non, mais en fait, non seulement elle a tardé à réagir, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas réagi. Et la deuxième chose, c'est que ce maire faisait œuvre d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il faut... c'était un projet qui était un projet d'accueil de personnes qui étaient très vulnérables. Est-ce qu'il y a un ministre qui l'a soutenu? Est-ce qu'il y a un ministre qui s'est déplacé sur place pour dire que...
Alors, il y a Olivier Véran qui l'a appelé et
il
a dit avoir transmis au cabinet du ministre de l'Intérieur le cas du maire de
Saint-Brévin. Est-ce qu'il y a eu un signe politique d'un soutien de l'État à la démarche qu'il avait? Aucun. Donc, en fait, aucun signe symbolique, aucun déplacement, aucun soutien.
Attends, c'était le 22 mars, on n'a pas beaucoup entendu non plus les oppositions.
Mais moi, je l'ai soutenu dès le jour.
Dès le 22 mars?
Ah, mais bien sûr, je l'ai soutenu immédiatement. Mais
comment est-ce que vous l'avez soutenu?
Je l'ai soutenu publiquement. J'en ai parlé dans les interviews et j'en ai fait un tweet. Donc, je veux dire, je l'ai soutenu immédiatement, dès que ça s'est produit. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que c'est d'avoir sa maison menacée. Moi-même, j'ai eu, quand j'étais à Lille, ma façade qui a été dégradée donc par l'extrême droite. Donc je savais que l'extrême droite savait exactement où j'habitais. Je rappelle qu'à l'époque, j'avais quand même ma fille qui était seule à la maison, par exemple. Ça n'est pas complètement anodin comme type de menace. Donc je veux dire, je savais exactement ce que vivait cet homme. Et je lui ai témoigné mon soutien dès qu'il a été possible de le faire. Ce que je veux dire aussi, c'est que tant qu'on laisse les propos d'extrême droite se diffuser comme étant une opinion, et non pas comme étant des délits quand il s'agit de racisme ou quand il s'agit de xénophobie, eh bien alors on laisse aussi une forme d'impunité sur ces actes.
Ça veut dire que, en un sens, si je poursuis votre raisonnement, j'imagine que vous soutenez la démarche de Gérald Darmanin qui, publiquement dans l'Assemblée nationale, a souhaité faire interdire par principe tous les mouvements, enfin les rassemblements des mouvements d'ultra-droite, même si la justice, à plusieurs reprises ce week-end, lui a donné tort.
Non mais Gérald Darmanin, il navigue à vue, c'est-à-dire qu'un coup il laisse, un coup il laisse pas, un coup il dit que Marine Le Pen est trop molle et de l'autre côté il veut interdire. Enfin, on ne sait pas quelle est sa politique. On interdit une manifestation d'extrême droite, non pas sur la base d'un droit ou pas à manifester. On interdit une manifestation d'extrême droite au nom des propos qui sont tenus par le mouvement qui organise, là en l'occurrence l'Action française. Je suis sûre que si on regardait dans les archives de l'Action française récente, on trouverait bien des propos qui pourraient relever du racisme, qui pourraient relever de la haine de l'autre. C'est au nom de cela qu'on interdit en fait les rassemblements.
Bah manifestement, non, pas de point de vue du droit, puisque le juge administratif a jugé que ce n'était pas...
Non, le juge administratif a juste jugé l'autorisation ou pas de se rassembler. Oui. Oui, mais on interdit un rassemblement sur la base des propos qui sont tenus en amont. Il n'y a pas eu d'études sur les propos qui ont été tenus en amont. Dieudonné, par exemple, ces spectacles ont été interdits sur la base de condamnations pour antisémitisme. Là, l'Action française... On connaît l'histoire de l'Action française. Je rappelle quand même que
c'est l'Action française, c'est le risque de trouble à l'ordre public, Madame Rousseau. C'est le risque de trouble à l'ordre public qui caractérise l'interdiction. C'est pas le fait que quelqu'un a X années et dit quelque chose et qu'il soit toujours membre de cette organisation. C'est le risque caractérisable de trouble à l'ordre public.
Quel est le message politique qui est envoyé par cette organisation? A-t-on regardé les publications de cette organisation? A-t-on analysé les publications de cette organisation en regard du droit?
Concrètement,
les propos racistes deviennent légitimes.
Madame Rousseau,
l'Action française se fonde là-dessus.
Ça veut dire que vous considérez que la justice administrative, en l'espèce, quand elle autorise un colloque hier, un rassemblement ce matin, elle est laxiste?
Non, je dis juste qu'on n'a pas fait tout le processus. Je dis que l'action du Conseil d'État devrait porter d'abord sur les propos qui sont tenus dans ces organisations-là. Étape 2, sur la base de la décision, sur les condamnations potentielles de racisme ou d'antisémitisme, alors on interdit leur rassemblement. Et en fait, comme il n'y a pas eu cette première étape, il n'y a pas la seconde étape. Et c'est encore une fois, je reviens sur Dieudonné.
C'est la justice qui ne va pas assez loin.
La justice n'a même pas été saisie. Elle peut pas aller assez loin
Elle n'a pas été saisie. Une dissolution. Parce que si on regarde tout le corpus de ces mouvements-là, qu'on considère qu'ils sont racistes, xénophobes, enfin, haine de l'autre, ça veut dire qu'il faut demander la dissolution de ces mouvements.
Je rappelle que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit.
Bien sûr.
C'est un délit. Ben voilà, donc si on a des mouvements qui sont délictueux et qui tiennent des propos délictuels, il faut pouvoir les condamner, bien sûr.
Mais est-ce qu'il faut changer la loi? Est-ce qu'il faut changer la loi?
Mais le racisme existe, simplement, je pourrais le dire de manière plus directe en disant que le racisme aujourd'hui n'est plus condamné comme il devrait l'être. Ou n'est pas condamné comme il devrait l'être, parce que je ne sais pas si d'ailleurs à une époque il l'a réellement été. Mais n'est pas condamné comme il devrait l'être. Or, le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Et en fait, aujourd'hui, en France, les propos racistes ne devraient pas être...
Je voudrais revenir, Madame Rousseau, s'il vous plaît, en ce qui vous concerne. Vous recevez encore des menaces?
Mais
est-ce que c'est quotidien? Ça ressemble à quoi? Non, parce que on entend parfois certaines, ou vous communiquez, vous et d'autres, parfois sur le pire. Et est-ce que ça se cantonne au pire, si je puis dire les choses ainsi? Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est quotidien? Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous voulez bien l'expliquer?
Ah bah c'est quotidien, c'est-à-dire il suffit que je fasse un tweet pour voir le cyberharcèlement qu'il y a derrière. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas secret. Et évidemment, je reçois des lettres à l'Assemblée nationale, je reçois des insultes dans l'espace public, je reçois sur mes mails, ça m'arrive sur les messageries privées de réseaux sociaux. Enfin, dès que, en fait, tous les moyens sont utilisés. Et évidemment que j'ai des menaces absolument directes. Enfin, je veux dire.
Est-ce que vous portez plainte systématiquement ?
Alors, je ne porte pas plainte systématiquement. Automatiquement, faute de quoi je passerai ma vie au commissariat. Après, il y a des moments qui sont plus tendus que d'autres. Donc, dans ces moments-là, je vais déposer plainte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà obtenu 3 condamnations. Enfin, je rappelle quand même qu'obtenir 3 condamnations pour menace de viol et de meurtre, c'est pas rien.
Et vous continuez à vous étonner. Vous continuez à vous étonner que la demande de protection que vous avez faite ne soit pas suivie des faits. Est-ce que vous continuez à dire à Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, j'aimerais avoir une protection policière, une protection fonctionnelle ?
Non, ce dont je m'étonne, mais je pense que ça rejoint la position du maire de Saint-Brévin. C'est-à-dire que voilà, je fais partie des personnes menacées, je pense. On peut le dire, voilà, je sais. La question, c'est pourquoi je n'ai pas un rendez-vous avec quelqu'un de la sécurité des élus, avec quelqu'un de la sécurité des personnes en vue, avec quelqu'un du renseignement, avec une personne qui est en charge des questions de menaces. Pourquoi je n'ai pas un entretien avec cette personne m'expliquant quelles sont la nature des menaces,
quel est le degré,
où est-ce que je dois faire attention et pas faire attention, comment je dois me comporter dans l'espace public. Mais moi ça va, enfin je veux dire je vis bien la chose, mais je veux dire il faut comprendre que c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que on ne sait pas, par exemple, si on peut continuer à prendre les transports en commun ou si on ne peut pas continuer à prendre le métro, ne serait-ce que ça.
Mais alors, du coup, vous avez renoncé ou pas ?
Alors non, je prends le métro et d'ailleurs, c'est à chaque fois des expériences. Mais je prends beaucoup le métro, énormément le métro. Mais quand c'est tendu, je prends plus le taxi, oui, parce que il y a des moments où je me sens pas en sécurité dans l'espace public. Et voilà, et je sais qu'un jour il va y avoir sans doute un truc. Sandrine Rousseau, l'écologiste qui prend le taxi, bah allez-y, faites votre.
Mais est-ce que vous avez pensé comme le maire de Saint-Brévin arrêter en vous disant finalement c'est trop violent ? Est-ce que vous vous êtes dit pour ma fille, pour mon entourage ?
Non, les menaces ne m'ont jamais. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait arrêter. Non. Mais parce que j'ai une carapace, voilà. Et je suis pas sûre que tous les élus puissent l'avoir. Et j'ai non seulement une carapace, mais j'ai aussi, j'ai pas d'enfants en bas âge chez moi. Ça joue aussi, c'est-à-dire que j'aurais mis en danger mes propres enfants. Je pense que j'aurais réfléchi davantage. Là, ça n'est que, c'est plus facile pour moi aussi.
Madame Rousseau, je voudrais revenir sur les propos d'Emmanuel Macron qui ont provoqué la colère d'une partie de la gauche, d'une partie des écologistes, quand il a demandé une pause réglementaire au niveau européen. Il fait allusion aux normes écologiques. Pour lui, la logique, c'est de pouvoir être compétitif face à la Chine, notamment face aux États-Unis et au niveau européen. Est-ce qu'il n'y a pas une logique si on veut continuer à être attractif face à ces deux géants ?
Il n'y a pas de logique à demander une mise en pause des mesures écologiques et des normes écologiques quand on est dans une situation de bascule. On est vraiment là, enfin, je ne sais plus comment le dire, moi, parce que je le dis à chaque fois, mais on est dans une situation d'une gravité extrême sur la crise écologique. Extrême. On ne se rend pas compte. On est complètement aveugle à ce qui se prépare. Le GIEC pourtant nous le dit. C'est pour ça que moi, je suis absolument fascinée par les discours qui se veulent rationnels, appuyés sur la science, la technologie et qui n'entendent pas les analyses scientifiques du GIEC. On est dans une situation extrêmement critique, mais même ces mots-là sont faibles par rapport à la réalité de ce qui se prépare. On a 3 ans pour agir, on a 3 ans pour changer radicalement nos modes de production et nos modes de consommation. Et on fait comme si... Et moi, je qualifie Emmanuel Macron de techno-utopiste. C'est-à-dire, on fait comme si on allait avoir des innovations, des machins, des trucs et des bidules qui vont faire en sorte qu'on émette plus de carbone. Mais l'ampleur de la crise n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si on trouve des bidules et des trucs, ça résoudra pas notre problème.
Pour préciser ce que dit le président par rapport à la question que vous posez, Jean-Baptiste, il dit il faut qu'on fasse une pause et qu'on applique les normes qui ont été décidées, qu'on n'en fasse pas de nouvelles, parce que sinon, on risque, notamment par rapport à la Chine, aux États-Unis, à comment dire, imposer tellement de normes que les entreprises ne s'implanteront plus en France. Des entreprises qui, eh bien, parfois sont des industries vertes et qui permettent précisément de décarboner l'économie. Voilà la pensée du président de la République.
Non, mais j'ai bien compris la pensée du président de la République. Simplement, ça n'est pas une pensée écologique. Ça n'est pas une pensée qui pense la limite de la planète. C'est-à-dire que là, on ne négocie pas avec les limites planétaires. On ne négocie pas avec le réchauffement climatique. On peut pas demander une pause au réchauffement climatique de 3-4 ans. Enfin, ça n'existe pas. Donc là, il est à nos portes. Il est là, on le voit. En plus, on a la sécheresse.
Il fait un effort, le président de la République, puisque pour qu'il se décarbone, il propose de subventionner en fait des entreprises comme ArcelorMittal, comme Total, comme ExxonMobil, comme enfin de très nombreux groupes. Est-ce que ça vous trouvez finalement, même si ces entreprises font des très gros profits, c'est normal de les aider et d'avancer, ou est-ce que ça vous scandalise?
Total est absolument écocidaire. Total est une entreprise écocidaire, et en France et dans le monde. Total a un projet qui s'appelle ICOP, qui est un projet qui va traverser la Tanzanie et qui fait un pipeline aérien qu'on doit chauffer parce que le pétrole qui va passer dedans est visqueux. Et donc, ça passe par le lac Victoria, qui est une réserve de biodiversité incroyable. Ça déplace quantité de population, tout ça pour fournir du pétrole. Emmanuel Macron n'est pas capable de surtaxer les profits de Total.
Mais est-ce qu'il faut les aider à se décarboner?
Il faut leur interdire de détruire les écosystèmes. Il faut les condamner pour leur responsabilité dans la destruction des écosystèmes. Et ils ont des profits qui leur permet de faire la bascule. Je veux dire, on ne va pas dépenser de l'argent de l'État alors que les profits de Total sont historiques. Et en plus, ils bénéficient de ce qu'on appelle en économie une situation de rente. C'est-à-dire que parce qu'ils extraient du pétrole, ils ont une rente de monopole ou d'oligopole sur cette extraction de pétrole. Donc je veux dire, on ne va pas aider des entreprises comme ça, on va les contraindre à bouger. On n'a pas besoin de dépenser de l'impôt des Français pour aider Total, ça n'est pas vrai. Ça.
Alors justement, Madame Rousseau, pour revenir aux Français, au quotidien des Français, évidemment, vous êtes contre les moteurs à explosion, si je peux dire les choses ainsi, en tout cas la pollution liée aux véhicules. Sauf qu'il y a des Français en zone rurale notamment, ils n'ont pas le choix, ils prennent la voiture pour aller bosser. Bon.
Oui.
Et ils trouvent que le prix à la pompe est très élevé, malgré le fait que le prix du baril ait baissé. Vous comprenez pourquoi, vous?
Ça s'appelle une rente. Ça s'appelle une rente, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes en monopole de distribution ou d'extraction du pétrole, eh bien, vous pouvez vous en mettre plein les poches. Enfin, pardon de le dire aussi crûment, mais enfin, c'est quand même ça. Et donc, on sait qu'à chaque fois que les prix augmentent, les prix du brut augmentent, eh bien, le prix de l'essence raffinée augmente parce que les distributeurs et les extracteurs reportent les prix. Mais par contre, quand les prix diminuent, alors il n'y a pas une baisse de la même ampleur que la baisse sur les marchés internationaux. C'est connu. C'est ça la rente, en fait.
Donc, pendant la campagne interne face à Yannick Jadot, au moment de la désignation du candidat écologiste à l'élection présidentielle, vous étiez plutôt favorable à ce que les prix de l'essence augmentent.
Oui,
pour que ça envoie un signal prix qui permette de désinciter à notamment l'utilisation de la voiture. Est-ce que vous dites toujours la même chose? Il faudrait que les prix continuent d'augmenter pour essayer d'éviter que les gens...
Les prix ont augmenté bien plus que ce que je proposais. Moi, je proposais quelques centimes, hein. Oui. Je rappelle ça. Je proposais quelques centimes étalés sur le temps avec des politiques publiques pour aider
et
les personnes qui ont
continuez
qui
à dire
besoin.
Qu'il faut que la tendance aille à l'augmentation.
Je pose toujours, oui, le fait qu'on a absolument besoin de penser l'alternative à la voiture. Mmh. Ce qui n'est toujours pas pensé. C'est-à-dire que vous dites, dans les milieux ruraux, on a besoin de la voiture, c'est absolument vrai. Et ces personnes-là ne peuvent pas se passer de voiture aujourd'hui. Donc comment on fait en sorte, non pas de les prendre à la gorge avec le prix de l'essence, mais comment on fait en sorte de leur offrir des alternatives de mobilité à ces personnes? Aujourd'hui, rien n'est pensé en ce sens.
Quand vous voyez chez nos voisins, par exemple, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, qui a un billet tarif unique sur le transport ferroviaire, à votre place, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la semaine dernière, nous l'avons interrogé à ce sujet, il dit que les investissements seraient trop lourds. Nous ne pourrions pas aujourd'hui le financer.
Ben voilà. Ben voilà, ça dit tout. C'est QFD, encore une fois, hein, ça dit tout. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'écologie, on n'a pas les moyens de financer. Par contre, on est capable de soutenir Total. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est du capitalisme libéral le plus pur et le plus violent, en réalité, ce que fait Emmanuel Macron. Mais évidemment qu'on a les moyens, si on le veut, de faire ça. Et par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui manque dans notre système fiscal, qui s'appelle le système pollueur-payeur. C'est-à-dire que pour financer la transformation écologique, bah, il nous faut trouver les moyens de faire payer les pollueurs, les plus gros pollueurs. Et que c'est comme ça qu'on va financer la transformation écologique. Comme il n'y a aucun moyen d'aller vers une taxation pollueur-payeur, parce que dès qu'on parle de taxation, on a l'impression de passer pour de dangereux, de dangereux individus qui allons entamer la liberté d'entreprendre, alors qu'il s'agit de taxer un peu total sur les super profits et les plus gros émetteurs de carbone.
Vous dites aussi augmenter les taxes sur l'essence pour les particuliers. Donc là, c'est pas des grands pollueurs.
Ce que vous faites là n'est pas honnête, parce que moi, ce que j'ai dit, c'est de le faire sur 5 ans de manière extrêmement limitée et bien moins que ce qu'il y a actuellement. Donc ne me faites pas porter quelque chose qui n'existe pas. Par ailleurs, je le dis, on a absolument besoin d'investir sur les mobilités alternatives. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser les gens pris à la gorge par le prix de l'essence. Ça, c'est impossible.
Encore un mot sur l'inflation.
L'inflation est confirmée à 5,9%. En avril. Donc, et les prix de l'alimentaire continuent à s'envoler. Les distributeurs font-ils le métier ? Le gouvernement agit-il suffisamment ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Les prix de l'alimentaire continuent à s'envoler tels qu'ils le font.
Il se passe que plusieurs choses sur les prix de l'alimentaire. Il se passe qu'à chaque étape, chacun s'en garde un peu d'argent dans les poches et augmente ses bénéfices. Et il se passe aussi que aujourd'hui, l'alimentaire fait partie des biens les plus spéculatifs qui soient. Et la dernière chose qui se passe sur l'alimentaire, c'est que dans l'agriculture intensive, aujourd'hui, le pétrole et les dérivés du pétrole sont le premier intrant en valeur, c'est-à-dire qui finalement conditionne le plus le prix des produits alimentaires. C'est pour cela qu'il faut réformer l'agriculture et faire en sorte qu'on ait une agriculture qui soit résistante, résiliente et qui permette de nourrir les populations localement, qu'on ne soit pas dépendant des cours mondiaux prix des matières premières.
Mais ça permet pas de faire baisser les prix rapidement, là.
Mais bien sûr que si, si on avait une agriculture locale et une agriculture qui ne dépende pas des dérivés du pétrole, eh bien, on serait pas dans une situation d'inflation telle qu'aujourd'hui. Après, là, je le dis, maintenant, il faut aider les personnes qui sont en plus grande précarité vis-à-vis de l'inflation.
Avec
et ça nécessite notamment, moi, je pense qu'on devrait revoir le taux de TVA sur la nourriture et sur la nourriture de première nécessité.
Marine Le Pen.
Je ne sais pas si elle l'a dit, mais en tous les cas, je pense
sur un panier de produits.
Nous, on l'a porté dès la politique pouvoir d'achat. On l'avait porté Si ça marche.
En Espagne, ça marche pas.
Ça marche pas en Espagne parce qu'on n'a pas obligé les entreprises à reporter le prix. Et à reporter la baisse de prix, c'est ce qu'on avait fait dans la baisse de TVA sur la restauration sous Sarkozy.
Et ça n'a pas marché non plus.
Parce qu'on n'a pas obligé les entreprises à répercuter sur les prix de vente la baisse de TVA. C'est ça qui manque dans la politique qui a été menée par Nicolas Sarkozy ou qui manque en Espagne. Et c'est ça qu'il faut faire.
C'est une tradition dans cette émission à mi-chemin. Voici trois photos liées à l'actualité. Derrière chacune des photos, il y a une question. Vous allez donc voir apparaître derrière moi les Jeux Olympiques à Paris, Lazara et Charles III avec ses héritiers. Quelle première photo choisissez-vous ?
Je ne sais pas du tout. Allez, Charles III.
Photo donc officielle du nouveau roi, dont celle-ci, présentant le roi avec son fils et son petit-fils, donc ses héritiers. Est-ce que vous saluez la tradition ou vous dénoncez l'expression quasi parfaite du patriarcat ?
Bon, au moins, eux, ils ont accepté les rênes, contrairement en France, où la loi salique a toujours interdit que les femmes règnent. Donc, au moins, on sort d'Elisabeth II. Mais là, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une image d'un autre temps. C'est une image complètement désuète et voilà. Bon, après, je sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que voilà. On a coupé la tête de notre roi, on ne s'en est jamais complètement remis parce que je pense que la Ve République est quand même une forme de monarchie républicaine et on met comme ça à l'honneur et au pinacle un homme. Mais quand même, il y a des élections tous les 5 ans. Et je suis attachée, moi, à ces élections tous les 5 ans.
Bon, il reste deux photos. La Tour Eiffel, en fait, les JO hein, à Paris, sera l'année prochaine. Et puis, Lazara, qui représentait la France à l'Eurovision.
Je sais sur ce sur quoi vous voudriez m'interroger sur Lazara, donc je vais prendre le JO.
Alors, pour le coup, c'est un sujet vraiment sérieux. Des étudiants ont été sommés de quitter leur logement afin de libérer de l'espace pour les organisateurs, pour les partenaires qui vont participer à ces Jeux Olympiques. Est-ce que les JO doivent passer avant tout le reste ?
Alors, moi, je m'étais déjà battue parce que avant les... Là, on est sur les étudiants, mais avant, il y avait les hôtels sociaux qui ont subi la même chose. Et dans les hôtels sociaux, il y avait des personnes qui étaient très précaires, qui étaient en grande vulnérabilité, des personnes qui n'avaient pas de ressources et qui ont été mis à la rue ou qui ont été mis en très grande banlieue parisienne pour libérer la place et pour rénover ces hôtels pour du logement pour les JO. Et là, je pense qu'on atteint la limite de ce qu'est l'organisation des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dehors des étudiants qui sont en très grande précarité. On ne peut pas mettre les personnes les plus vulnérables en dehors de chez eux, les expulser du lieu précaire dans lequel ils habitent pour les JO. Les JO ne peuvent pas être un lieu où on nettoie, où on écarte, où on fait partir les personnes les plus pauvres de la capitale.
Dans un instant, nous allons revenir sur ce qui va se passer le 8 juin avec la niche parlementaire, la proposition Lyotte. Mais avant ça, je voudrais vous soumettre les propos de Marine Tondelier, qui est donc la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Elle est invitée d'une émission qui s'appelle Backseat. Et au sujet de l'accident nucléaire de Fukushima, elle dit, on va voir les propos s'afficher, c'est au moment de Fukushima qu'on a tout perdu. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit, on a gagné. Ça veut dire, notre message est passé sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous réagissez à cette phrase « on a gagné » après ce drame au Japon ?
Je pense qu'on n'a jamais gagné quand il y a une catastrophe de cette nature. Après, j'imagine que ce qu'elle voulait dire, je n'avais pas entendu cette phrase, mais j'imagine que ce qu'elle voulait dire, c'est que... elle espérait sans doute une prise de conscience sur les dangers du nucléaire, ce qui a été le cas d'ailleurs juste après cette catastrophe, comme ça a été le cas juste après la catastrophe de Tchernobyl. Et puis finalement on oublie et la logique économique prend toujours le dessus.
Mais est-ce que la patronne en partie comme Europe Écologie Les Verts peut utiliser ce genre de phrase, peut dire on a gagné après un drame de cette ampleur?
Je pense que ce qu'elle voulait dire était une espèce de... Enfin, elle se référait plus à la bataille sur le nucléaire et on ne gagne jamais quand il y a des catastrophes. Enfin, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute.
Revenons à ce qui va se passer le 8 juin, Madame Rousseau. Donc, le groupe Lyotte va profiter de la niche parlementaire pour proposer un texte qui vise à abroger le départ à l'âge à la retraite à 64 ans, puisque désormais, il a été promulgué, il est donc entré en vigueur. Est-ce que vous allez voter ce texte? Il y a assez peu de
Bien sûr.
Là-dessus. Ouais.
Bien
Est-ce
sûr.
Que vous pensez que ça va réussir? Est-ce que ça va aller au bout?
Je pense qu'il y a une chance, oui. Et j'appelle les Républicains d'ailleurs là-dessus, parce qu'on sait que le vote des Républicains va être un vote décisif. Et je voudrais dire aux Républicains qui nous écoutent que, en fait, il y avait des mesures dans la loi qui nous avaient été proposées à l'Assemblée nationale auxquelles ils s'accrochaient pour dire qu'ils allaient voter ce texte. Donc c'était le CDI senior, c'était l'index senior. Toutes ces parties-là du texte ont été balayées par le Conseil constitutionnel.
Et pour les Républicains, une loi...
ça pareil. A été balayé par le Conseil constitutionnel.
Et par ailleurs,
la loi
sur l'âge,
telle qu'elle s'applique aujourd'hui...
Les Républicains, il faut le rappeler aux téléspectateurs, ils voulaient 65 ans. Hein.
Oui, mais ils avaient dit dans l'hémicycle que pour eux, les mesures d'accompagnement étaient indispensables au vote de la loi. Là, ces mesures d'accompagnement ne sont plus dans la loi telle qu'elle a été appliquée. Donc... S'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils devraient voter pour l'abrogation puisqu'il n'y a pas les mesures compensatrices. Et comme un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, il y a des promesses sur les mesures compensatrices, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas de certitude. Donc, ils devraient voter pour l'abrogation de cette loi. Et je rappelle que, et pour moi, c'est ce qui fait un peu la spécificité du macronisme, c'est que les Républicains ont dans leur base sociale des personnes qui sont des personnes précaires, pauvres, et qui sont des ouvriers, qui sont des employés, qui sont... Ce que je ne pense pas à le macronisme. Je pense que le macronisme est vraiment, se caractérise par une sociologie qui évacue la question sociale et qui n'a pas de pauvres, en fait. Et là, chez les Républicains, il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes de fin de mois et qui ont des problèmes de posture, de corps, de pénibilité dans leur métier. Donc je leur dis, écoutez aussi ces gens-là, là vraiment c'est une question de cohésion sociale.
On sait que le Sénat ne votera pas cette loi. Donc tout ça pour ça. Eh bien, ça va servir à quoi ?
Oui, mais la loi retraite n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale, puisque il y avait un risque qu'elle ne passe pas, et donc il y a eu recours au 49-3. Donc en fait, il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée nationale sur cette loi.
Mais vous vendez des illusions aux Français. Les Français, quand ils vous écoutent, ils se disent peut-être que la loi va être abrogée. En réalité, tout le monde sait très bien que même si c'est voté à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas voté au Sénat. Il faudra réattendre que ce soit inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée. Enfin bref, vous voyez bien que
la réforme ne sera pas abrogée. Moi, je ne vends rien du tout aux Français.
Mais vous ne croyez pas vous-même à l'abrogation des 64 ans ?
Moi, je dis que si on vote la loi, si la loi du 8 juin déposée par le groupe Liotte est votée, alors ça sera quelque chose d'important dans la mobilisation contre la réforme des retraites, parce que pour la première fois, l'Assemblée nationale, donc une des deux chambres, montrera qu'elle est contre ce texte.
C'est symbolique.
Et c'est très
important.
C'est
seulement symbolique.
Non, c'est pas symbolique. Ce sera une entrave au discours selon lequel, ça y est, c'est passé, c'est derrière nous, il n'y a plus rien à jouer, il n'y a plus rien à faire, etc. Et ça montrera que la mobilisation continue à la fois dans la rue pour les personnes qui se lèvent et qui manifestent, et à l'Assemblée nationale, et c'est important.
Un mot sur ce 8 juin, juste rapidement. Le gouvernement, enfin la majorité, se pose la question de faire ou non de l'obstruction pour éviter que ce texte soit adopté. Est-ce que ça vous choquerait s'il faisait de l'obstruction ?
Ça me ferait beaucoup rire, je vais vous dire, parce que vu ce qu'ils nous ont reproché sur l'obstruction, alors là, je vais
regarder les choses. Donc s'ils le font, ils font la même chose que vous.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas très à l'aise avec l'idée qu'on puisse voter cette abrogation et que donc ça n'est pas si symbolique et si inutile que vous le dites.
On parlait des JO tout à l'heure, ce sera l'été 24. Il y aura une autre échéance importante juste avant, ce sont les européennes. Et votre parti, comme d'autres, commence évidemment à se pencher très sérieusement là-dessus. Europe Écologie Les Verts a commandé une étude à Harris Interactive sur les différentes options en vue de ces européennes. L'option des listes autonomes a fait plus en cumulé qu'une liste commune. Marine Tondelier s'en réjouit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de liste NUPES pour ces européennes ?
Je dis que il est quand même important de discuter. Pourquoi il est important de discuter ? Parce que là, c'est un sondage à un an. En plus, on sait que l'électorat sur les européennes est un électorat qui est extrêmement volatile et qui change très facilement de positionnement. C'est l'élection où la volatilité du vote est parmi les plus grandes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde un peu ce sondage, on se dit que toutes les forces progressent. Toutes les forces de gauche et de la NUPES progressent, mais précisément parce qu'on est aussi dans une configuration de la NUPES sur les législatives, etc. Donc tout progresse. Et en fait, la question qui est posée sur ces européennes, pour moi, il y a deux questions. La première, c'est comment on fait en sorte qu'à l'issue du scrutin des européennes, le récit qui s'installe est que le RN n'ait pas gagné toute l'Europe. Puisque je rappelle que
il arrive en tête de sondage à nouveau aujourd'hui.
Vox en Espagne fait une percée énorme, que le parti des Finlandais en Finlande fait une percée énorme, qu'en Suède, l'extrême droite est extrêmement présente, que Meloni est présidente du Conseil en Italie. Donc en fait, on est dans une poussée extrêmement puissante de l'extrême droite partout en Europe. Et si, à la fin, on arrive avec l'extrême droite en tête, les Républicains qui sont affaiblis et qu'ils soient obligés de faire alliance avec l'extrême droite comme ils l'ont fait dans bien des pays européens pour gouverner l'Europe, est-ce qu'on veut que l'extrême droite gouverne l'Europe ? Et donc,
une liste commune, pour dire les choses simplement ?
Moi, je pense qu'il faut qu'on discute et qu'on dise aux Français et Françaises qu'on est toujours dans une forme d'alliance, quand bien même à la fin, on y va ensemble ou séparément. C'est-à-dire que, pour moi, l'important est qu'on soit capable d'additionner les scores à la fin du scrutin, quand bien même on n'y va pas ensemble. Et moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'hypothèse d'y aller ensemble, mais si on n'y va pas ensemble, qu'au moins on réfléchisse à comment on installe dans l'esprit des Français et Françaises que oui, nous continuons à travailler ensemble et que oui, ces voix s'additionnent. Et
ça, c'est très une addition avec des soustractions, parce qu'il y a aussi des dissidents dans vos trois formations. Au PS, chez vous, enfin, il y aura des listes dissidences. Donc, est-ce que vous êtes sûr que ce sera une addition performante ?
Ben voyez, vous posez déjà cette question.
Ben oui.
Ben oui, ben donc ça veut dire que c'est pour ça que moi je veux qu'on discute et je veux qu'on fasse un bout de chemin en commun au moins jusqu'à cette élection.
Et la NUPES fait peur à certains électeurs de vos familles politiques. Donc, et on voit que le RN progresse encore plus lorsque vous avez une liste d'union. Donc on est à un an certes, mais il y a plusieurs lectures de cette.
Non, le RN fait pas plus. Ça se joue sur l'épaisseur de, enfin sur la marge d'erreur. Le RN fait pas plus quand on est en liste d'union. Par contre, c'est les électeurs RN. Quoi. Mais ce qui se passe sur la NUPES, c'est en fait pour moi il y a un enjeu là très important, c'est que on s'installe dans le paysage politique français comme étant une alternative possible, une alternative en capacité de gagner aux prochaines élections. Et quand je mets aux prochaines élections, c'est au pluriel, à toutes les prochaines élections. Qu'on s'inscrive dans le paysage de la gauche et de l'écologie comme étant l'alternative qui va grimper, qui va monter, qui va se solidifier et qui va présenter une alternative.
Vous avez tellement de visions différentes. Là, typiquement sur l'Europe, vous n'avez absolument pas le même point de vue que LFI. Quand on se projette sur 2027, Fabien Roussel, qui n'était déjà pas dans la NUPES à la précédente présidentielle, commence à dire « Moi, je veux que notre programme soit présent, que ce soit lui qui mène la danse, etc. etc. » C'est toujours compliqué, évidemment, de faire des unions. Mais là, ça paraît de plus en plus compliqué.
Mais moi, je ne suis pas si certaine que ça, qu'on ait un programme si différent que ça de la NUPES, enfin de LFI aux élections européennes.
Comme Manon Brigy, le drapeau européen, c'est une forfaiture démocratique. Vous pouvez pas être en phase avec ça.
Non, alors, je le redis ici, le drapeau européen n'est pas une forfaiture démocratique. Non,
c'est un détail.
Le JDD, je crois, ou l'Obs, je sais plus lequel des deux, je crois que c'est... je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, a fait une analyse des votes sur la précédente mandature et a montré que ELV au Parlement européen votait à 81% comme LFI. Donc, je veux dire, il n'y a pas de différence majeure. Voilà. Et oui, on sait qu'on a 20% de différence. Eh ben, on les assume. Mais ce que je veux vraiment imposer, enfin, ce que je veux dire là, et ce que je veux réussir à imposer dans la discussion politique, c'est le fait qu'on discute. Parce que pour moi, c'est important. Après, on peut ne pas arriver à se mettre d'accord ou juger qu'il est préférable de ne pas se mettre d'accord. C'est possible. Mais par contre, on a à discuter. Parce que fermer la porte là et dire il n'y a pas de discussion possible et c'est comme ça, je pense que c'est une erreur.
C'est un message que vous envoyez à Marine Tondelier.
C'est un message que j'envoie à tout le monde, y compris à Fabien Roussel.
Un mot rapidement, Sandrine Rousseau. L'actrice Adèle Haenel a écrit cette semaine à Télérama pour annoncer l'arrêt de sa carrière au cinéma au motif d'une trop grande complaisance à l'égard, je cite, d'un ordre mortifère, écocide, raciste. Vous l'avez soutenu sur Twitter. Ça veut dire que tous les acteurs, réalisateurs de cinéma, Dominique Moll qui tourne La nuit du 12 contre les féminicides, Lajli qui tourne sur les banlieues, sont complices d'un ordre mortifère, écocide et raciste.
C'est Adèle Haenel qui a écrit ça et moi je salue son courage à Adèle Haenel parce que
vous l'avez soutenue très vivement, très fortement.
Je dis qu'elle n'est pas dans une forme de... Comment je pourrais dire ça? Elle ne s'habitue pas en fait à la violence qu'il peut y avoir dans le monde du cinéma. Et en fait, on a aussi besoin de personnes qui ne s'habituent pas et qui ne veulent pas s'habituer à cette violence. Moi, je pense que...
Mais elle met tout le monde dans le même sac au sein du monde du cinéma. C'est ce qui a pu parfois choquer les uns et les autres. C'est pour ça que je vous citais Dominique Moll qui tourne sur
Dans tous les systèmes, il y a toujours des exceptions. Et gloire à eux.
Des exceptions.
Mais bien sûr, et il y a toujours des personnes qui font différemment. Et gloire à eux, et merci. Mais quand on voit les difficultés qu'il y a à condamner des comportements qui sont manifestement déviants, on a aussi un problème, et un problème qui dépasse juste les personnes qui ont ces comportements. On l'a vu au moment des cérémonies des Césars. Enfin, je veux dire, on va pas se voler la face. Quand Polanski a eu le prix du meilleur réalisateur, alors qu'Adèle Haenel venait de dénoncer la complaisance avec la pédocriminalité qu'il pouvait y avoir dans le cinéma. Bon, voilà.
Il y a des mesures qui ont été prises d'ailleurs un an après.
Oui, Très bien. Ce qu'elle dit, c'est que ces mesures, manifestement, ne sont pas suffisantes à transformer pour, en profondeur le monde du cinéma.
Pour revenir à votre propre
milieu. Je crois qu'on devrait écouter ce qu'elle a à dire, vraiment. Parce qu'en plus, elle le dit avec des mots qui sont, certes, des mots crus, mais des mots intéressants à écouter.
Il faut qu'on avance encore trois questions.
Non, juste, parce que vos déclarations sur Adèle Haenel font forcément penser à ce qui s'est passé dans la classe politique et dans des partis dont vous êtes proche. Donc, LFI avec l'affaire Quatennens, ELV avec l'affaire Bayou. Là aussi, vous considérez que les comportements n'ont pas été exemplaires et que les mesures nécessaires n'ont pas été prises.
Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et j'ajoute même que je pense qu'il n'y a aucun parti aujourd'hui qui peut se revendiquer de traiter correctement la question des violences sexistes et sexuelles. Oui, bien sûr, ça n'a pas été géré correctement. Et j'ai élevé la voix d'ailleurs pour dire que ça n'avait pas été géré correctement et nous avons été plusieurs à le faire.
Mais aujourd'hui, vous travaillez avec M. Bayou à l'Assemblée nationale.
Oui, parce que, mais ça, c'est un. C'est,
Bayou ça, ça a été par ailleurs. Ça a été enfin, blanchi, la cellule en question absolument. A considéré qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, de ce point de vue-là.
Il n'y a pas eu d'enquête. Non, mais voyez comment vous faites. Voyez comment vous faites le pas. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il dit, vous dites que la cellule a considéré qu'il était blanchi, il n'y a pas eu d'enquête. Il y a eu zéro enquête. Bah,
elle
zéro
a classé
personne.
Sans suite parce que.
Il y a eu zéro personne auditionnée. Zéro personne auditionnée. Ben, je veux dire.
C'est votre parti, Madame Rousseau. Hein,
mais, et oui, c'est pour ça que je dis que ça a été mal géré.
Deux questions pour terminer, s'il vous plaît, Madame Rousseau. La première concerne Sandra Rogol, qui a été interdite, explique-t-elle sur Twitter, d'entrer en Turquie. Elle souhaitait se rendre sur place pour l'élection présidentielle qui a donc lieu aujourd'hui, comme elle l'avait fait il y a 5 ans. Est-ce que vous avez eu des informations? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce qu'elle en sait un peu plus sur son thread, là, sur Twitter? Elle dit, je ne sais absolument pas pourquoi on m'a interdit et demandé de repartir.
Alors moi, je n'ai eu que des échanges avec elle par message sur le groupe des députés écologistes, où elle nous disait qu'elle était enfermée à l'aéroport d'Istanbul, qu'elle n'arrivait pas en sortir, que Daniel Simonet et d'autres députés ont réussi à partir, mais qu'elle, on lui avait pris ses papiers et qu'elle n'a pas eu le droit de poser un pied en Turquie et qu'elle est repartie immédiatement, sinon elle était mise en garde à vue en Turquie. Les soupçons portent sur le fait qu'elle ait soutenu les Arméniens qui dénonçaient le génocide arménien. Si c'est cela, c'est très grave en fait, parce que c'est une députée de la nation et vraiment, ce qui se passe mérite une enquête et mérite vraiment notre attention, parce que si c'est cela, c'est très grave.
Vous soutenez l'opposant à Erdogan?
C'est les Turcs qui choisissent et je ne commenterai pas au-delà de dire que moi je suis toujours du côté des démocrates, jamais du côté des nationalistes.
Mais sur l'affaire Sandra Rogol, vous pensez que le gouvernement doit interroger?
Bien sûr que le gouvernement doit intervenir. Il est absolument anormal qu'un député ou qu'une députée ne puisse pas mettre un pied dans un pays, alors même qu'elle n'a pas été condamnée. Je rappelle que Sandra Rogol n'a pas été condamnée. Elle fait partie de l'arc démocrate, donc il est absolument impossible qu'une députée soit interdite de séjour. Donc oui, je pense que c'est un sujet diplomatique.
La France doit poser les questions.
C'est un sujet diplomatique, bien sûr.
Un tout dernier mot qui n'a rien à voir avec le sujet que nous venons d'évoquer, ni avec le reste par ailleurs. Lyon a remporté la Coupe de France de foot féminin hier, face au Paris Saint-Germain, 2-1. Un match qui s'est joué à Orléans, dans un stade de 6800 places. Ce dimanche, là, cet après-midi, l'équivalent britannique entre Chelsea et Manchester United, finale de la Coupe anglaise, a lieu à Wembley. 90 000 places qui ont été vendues, c'est sold out. C'est quoi le problème en France? Pourquoi est-ce qu'on met les filles pour jouer dans un stade de 6800 places alors qu'en Angleterre, ça se passe dans un stade de 90 000?
Le sexisme, peut-être? Le patriarcat? Et à bas le patriarcat?
Merci Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur BFM TV. Merci beaucoup Marie-Christine, Benjamin. Voici affaire suivante avec Philippe Godin, Dominique Rizet. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h. À ce faire.